Chapitre 10. Jour 23. Tout sur ma mère. Aidée par l'absence de sommeil due au décalage horaire et au son étrange émis par ma voisine de lit, j'ai réfléchi toute la nuit. À ma vie. À ma mère. À nous. Depuis un temps incalculable, j'étais Thelma, la pseudo-rebelle en lutte contre tout et rien, en action, en réaction. Ça n'est pas pour le film des années 90 que ma mère m'a nommée Thelma. Je suis bien trop vieille pour cela. Je suis née en 1977, au moment même où Thelma Houston caracolait en tête des ventes avec le méga-tube international « Don't Leave Me This Way », dont ma mère Odette était une fan absolue. Bien sûr, quand les gens de nos jours entendent mon prénom, tout le monde pense au film, à Suzanne Sarandon et Gina Davis. Lorsque le Thelma et Louise de Ridley Scott est sorti au cinéma, j'étais une adolescente éblouie, transcendée. Je me suis identifiée à cette histoire de femme forte et sexy à la fois, qui est devenue ma référence absolue, une sorte d'idéal féminin. Moi qui n'ai jamais cru en Dieu, j'y ai vu une sorte de signe du destin. Ce prénom était désormais lié à un symbole bien plus intéressant qu'un vieux 45 tours disco. Je sais bien que le film ne se finit pas très bien, mais pour moi, la trace laissée est positive. Thelma et Louise sont des symboles de liberté de choix féminin, de femmes qui ne doivent rien aux hommes, qui n'en attendent rien et se débrouillent seules. Lorsque je suis tombée enceinte, lorsque j'ai sciemment décidé de garder l'enfant et de l'élever sans père, j'ai espéré avoir une fille et la prénommer Louise. Mais voilà, Louise était un garçon. C'est ainsi, et c'est très bien comme ça. Louis est le seul homme qui compte dans ma vie. Ma mère m'a élevée en solo, elle aussi. Odette est une 68arde qui s'est toujours battue pour disposer de son corps, pour sa liberté de penser, et je l'ai admirée pour ça. J'ai grandi dans le souvenir idéalisé d'un père absent, mort au cours d'une manifestation contre le démantèlement de l'industrie sidérurgique. J'avais moins d'un an, et la figure de ce père intouchable, irremplaçable, a balayé tout espoir de vie de famille. Ma mère a perpétué sa mémoire de syndicaliste, et d'aussi loin que je me souvienne, je l'ai toujours vue en lutte. Elle n'a laissé aucune porte ouverte dans sa vie pour un homme. Elle a noyé son chagrin dans ses combats et dans son quotidien d'institutrice engagée en zone d'éducation prioritaire. La réussite pour tous, ma chérie. Qu'est-ce que j'ai pu l'admirer? Qu'est-ce que j'ai pu arpenter les rues avec elle? Je me souviens de ses défilés du 1er mai, d'abord sur ses épaules, quelques années plus tard tenant un bout de banderole, puis mon propre drapeau. J'étais fière d'elle, fière de moi, fière de servir la mémoire de mon père. Puis est arrivée mon adolescence, mes angoisses, mes hontes, ma volonté farouche de rentrer dans le rang, de m'asservir comme tout le monde à la dictature des marques, des entreprises, des princes et des princesses américaines, de la beauté stéréotypée. J'en avais assez des pulls informes à l'effigie de Che Guevara, des coupes de cheveux maison, des baskets usées jusqu'à la corde, de ce refus du monde capitaliste, de cette vie alternative qui me barrait l'accès au groupe des filles cool du collège, qui suscitait les colibés et le mépris des garçons de mon âge, si séduisants dans leurs Nike Air Jordan, leurs pulls poivre blanc trop larges et leurs survêtements Adidas dézippés au niveau des chevilles. Je n'ai pas compris les rejets en bloc de ma mère, je n'ai pas accepté qu'elle me refuse cette vie normale. Alors je me suis mise à la détester farouchement et à faire systématiquement l'inverse de ce qu'elle aurait souhaité pour moi. J'ai haï sa dégaine de fil de fer osseux, ses jambes arquées flottant dans ses jeans usés, sa manière de fumer ses cigarettes en les tenant entre le pouce et l'index, ses cheveux cendrés retenus par cette éternelle pince ton sur ton, ses sifflements de cow-boy, son regard dur et ses mots désobligeants, sa désapprobation de mon mode de vie. Je suis devenue tout ce qu'elle abhorre et j'ai tout fait pour cela. Dans ses yeux, je suis une mère irresponsable, brûlant mes plus belles années sur l'autel de la réussite professionnelle, obsédée par le chiffre d'affaires d'une entreprise multinationale qui n'hésite pas à délocaliser, vendant des produits de pure superficialité. Le seul lien qui restait entre nous, c'est Louis. Louis a toujours été autorisé à voir sa grand-mère quand il le souhaitait. Toujours. Question de principe, de racine. Et nous avons conservé un brunch mensuel tous les trois, qui devait avoir lieu ce fameux samedi 7 janvier. Après cette longue et intense nuit de réflexion, j'ai finalement décidé d'accepter mon sort. Ma mère était là, avec moi, à 10 000 kilomètres de Paris. Et je m'étais engagée auprès de Louis à suivre à la lettre ce qui était inscrit dans son petit carnet des merveilles. Concernant les expériences japonaises, Louis avait établi une liste précise, précédée de l'intitulé qui résumait le tout. vivre une journée de ouf à Tokyo avec la personne que j'aime le plus au monde. Pour le moment, maman. Je dois dire que le « pour le moment, maman » m'a fait tout drôle. J'étais parvenue à le digérer, mais la simple idée qu'il puisse considérer aimer un jour quelqu'un plus fort que moi avait égratigné mon petit cœur fracturé et mon solide ego. Puis je m'étais souvenue que moi aussi, lorsque j'avais son âge, je ne pouvais pas me douter que j'allais l'aimer, lui, bien plus fort que tous les autres. Alors j'avais ravalé ma fierté et était passée outre cette petite parenthèse. J'avais initialement considéré que je cocherais la case en étant seule, puisque j'allais passer ma journée de ouf à Tokyo avec la personne que j'aimais le plus au monde, c'est-à-dire Louis. Réflexion faite, c'était une entorse aux règles du jeu. Louis avait stipulé que les expériences devaient être vécues à deux, c'était ce qu'il voulait dire. Or, il fallait bien avouer qu'à part Louis, il n'y avait personne que j'aimais vraiment. C'était triste, mais c'était comme ça. La suivante sur la liste de mes amours potentiels, c'était ma mère. J'étais obligée de le reconnaître. Là, allongée dans ce grand lit auprès d'elle pour la première fois depuis mes 14 ans, j'ai pris conscience du vide de cette liste des personnes que j'aime. Je ne suis pourtant pas sociale, j'ai beaucoup de connaissances avec lesquelles passer une bonne soirée, mais je n'ai pas vraiment d'amis. L'amour et l'amitié nécessitent des efforts que j'ai décidé de ne plus faire il y a longtemps. Lorsque j'ai quitté le père de Louis avant qu'il ne sache qu'il allait devenir père. Depuis l'accident, je pouvais compter sur les doigts d'une main les personnes ayant tenté de me joindre pour prendre des nouvelles. Je ne les avais pas rappelées. J'ai de nombreux amis sur Facebook, beaucoup de copains et copines affichés dans la vie réelle, mais pas d'amis véritables. Je n'en ai pas été malheureuse, cela a été mon choix. Mes priorités ont toujours été claires. Élever mon fils et réussir ma carrière. Ma tante Odile n'a jamais eu d'enfant à son grand désespoir. Ma seule famille à présent, c'est Louis et maman. Je me suis redressée dans le lit. Nous avions laissé les rideaux ouverts, la lumière blanche de la ville baignait la chambre d'un éclat fantomatique. J'ai observé ma mère dans son sommeil. Elle semblait apaisée, son visage bien moins dur que lorsqu'elle était réveillée. Je l'ai trouvée belle, d'une beauté peu ordinaire, anguleuse, opiniâtre. J'ai reposé ma tête et j'ai continué à la regarder. Je me suis dit qu'au final, Louis serait sûrement très heureux que je passe cette fameuse journée de ouf avec sa grand-mère. Lorsque je lui ai proposé à son réveil, j'ai vu une lueur nouvelle briller dans ses iris bleu acier. Elle ne s'y attendait pas. Elle pensait sûrement devoir me suivre tel un agent secret, fulminant contre ces satanés japonais, me maudissant à voix haute, et voilà que je lui offrais une toute autre perspective. Elle m'a simplement dit « merci », a baissé les yeux pour dissimuler son émotion, puis m'a lancé. Alors, par quoi on commence ? Je lui ai répondu que j'espérais qu'elle avait le cœur bien accroché parce qu'on avait du pain sur la planche. Elle a éclaté d'un rire joyeux que je ne connaissais plus. Et nous sommes sortis, dans la singulière tiédeur de ce jour d'hiver à Tokyo.